Alors, nous sommes actuellement en compagnie de Carole Fives, romancière, à propos de son dernier livre « Que nos vies aient l'air d'un film parfait » aux éditions Le Passage, une approche sensible tout en nuances du drame du divorce qui fait éruption dans la vie de deux enfants et fait exploser une famille. Carole Fives vit à Lille, elle écrit mais elle est aussi artiste. Elle a déjà publié un recueil de nouvelles, « Quand nous serons heureux », paru en 2010 chez le même éditeur, et « Ça nous apprendra à naître dans le Nord », écrit avec Amandine D, et publié aux éditions de la Contre-Allée en 2011. Alors, sélectionnée par l'Express et choyée par les médias, vous êtes passée à la Grande Librairie, vous avez un planning de présentation d'enfer, et vous venez d'ailleurs de faire une signature au Salon du Livre à Paris la semaine dernière. Comment réagissez-vous à ce nouvel état d'auteur en vue ?
Moi, je réagis pas trop. Enfin, je suis pas du tout dans ce rythme-là. C'est vrai que c'est quelque chose d'assez extérieur à ma vie, on va dire, quotidienne. C'est vraiment des flashs, mais c'est pas quelque chose.
Oui, vous êtes pas mise dans la peau d'une écrivaine demandée.
C'est sûr que ça donne confiance pour la suite, pour l'écriture, mais je suis plus dans les problématiques d'écriture et de vie que de médias. j'ai conscience de la futilité quand même de tout ça et de. Bon, c'est une heure, c'est un jour, c'est une soirée, mais c'est pas des choses qui durent.
C'est vrai, c'est vrai, mais ça permet aussi, par exemple, au Salon du Livre, de rencontrer ses lecteurs.
Oui, ses lecteurs. Bon, les lecteurs, je sais pas s'ils vont spécialement au Salon du Livre, j'en ai rencontré certains, mais moi, je suis une grande lectrice aussi, j'ai pas spécialement envie de rencontrer les auteurs que j'aime. Mais c'est vrai que j'ai vu des lecteurs, en tout cas à Paris, comme j'en vois à Lille et dans mes différents déplacements. Et voilà, c'est l'occasion effectivement de prendre la température, de voir un petit peu pourquoi ça a plu, etc.
Ben voilà. et donc de faire évoluer peut-être l'écriture. Est-ce que ça vous change quelque chose quand un lecteur vous dit « Ah ben là, moi j'ai compris ça, j'ai senti ça, ou pourquoi vous avez mis ça ? » Est-ce que vous vous dites que pour le prochain livre, ben, vous pourriez changer quelque chose ou pas ?
Non, je pense pas. Je suis ma première lectrice et après je fais confiance à mes éditeurs, mais les lecteurs peuvent... Non, si ça leur plaît pas, écoutez, il y en aura d'autres. J'ai eu cette tendance-là à une époque de faire un petit peu en fonction du goût des uns des autres et j'ai remarqué que ça ne me réussissait pas trop, donc j'ai essayé d'éviter ça.
Je pense qu'il ne faut jamais être soumis aux sirènes extérieures. Oui. L'effet premier roman que votre éditeur, j'imagine, a joué, il en est content, votre éditeur ?
Ah bah oui, c'est sûr qu'il y a effectivement un regard qui est porté en septembre sur les premiers romans et pas mal de sélections, de festivals, etc. Et oui, je pense qu'il était content effectivement qu'on en fasse partie.
Alors vous citez en exergue de votre livre cette phrase de Nathalie Sarraute, « Ce que nous ressentons n'est inscrit nulle part ». Alors est-ce que c'est pour inscrire quelque part les choses que vous écrivez ?
Oui, c'est pour le travail de Sarraute justement sur les... Sur les non-dits, j'ai l'impression avec ce roman par exemple là, d'avoir dit des choses sur le regard des enfants sur le divorce et sur leurs parents qui n'avaient pas encore, enfin, ou en tout cas en littérature adulte, qui n'avaient pas encore été dites sur la façon dont les enfants peuvent ressentir effectivement, pour moi la littérature c'est aussi redonner la parole sans voix et là c'est les enfants c'est les sans voix en tout cas
effectivement. Oui. Est-ce que c'est la fiction qui est le meilleur moyen de recoller les morceaux de la mémoire ? D'ailleurs, à propos de mémoire, je pense que entre Bernard Lallemand qui recolle les morceaux des siens dans les installations et Carole Fives, il y aurait peut-être une passerelle. La mémoire.
La mémoire. D'ailleurs, quand j'étais au Beaux-Arts, c'est vrai que j'avais fait une installation sur la mémoire, sur la mémoire de la relation amoureuse. Quelque chose d'assez... archaïque parce que c'était vraiment je maîtrisais pas trop à l'époque la vidéo etc mais c'était avec un baiser en énorme plan, c'était la vidéo un peu trash.
Vous vous êtes dit après je passe à l'écriture.
Oui, non disons que au Beaux-Arts on me disait tellement, enfin j'étais à Tourcoing et on me disait tellement explique ton travail, c'était par exemple c'était assez conceptuel et moi je faisais de la peinture et on me demandait toujours de faire de la vidéo, de faire des choses que je faisais pas forcément très bien et d'expliquer mon travail et j'ai préféré finalement, écrire, ouais. C'était plus simple.
et écrire avec la fiction.
Avec la fiction, oui. Une fiction qui a une part biographique dans le dernier roman, et qui est quand même assez ancrée, même dans le recueil de nouvelles, dans des choses vues, en tout cas traversées, ressenties, même si elles sont pas toujours... c'est souvent des projections, mais oui. Avec effectivement la fiction en littérature jeunesse aussi.
Et donc un peu d'autofiction, finalement.
Ouais, je sais pas, c'est un genre vraiment fourre-tout en ce moment, l'autofiction, je pense que ça a toujours existé.
C'est à la mode,
oui,
c'est
voilà,
vrai.
voilà, c'est à la mode.
Mais un
Pour être à la mode, je vais dire que je fais de l'autofiction.
écrivain, il est toujours dans ce qu'il écrit, forcément. Mais là, je pense quand même qu'entre Tom et sa grande sœur, enfin, vous êtes
oui,
bien quelque
oui, tout
part.
À fait. Oui, oui, le lien frère-sœur, qui est pour moi le sujet du roman, plus que le divorce, finalement. C'était, à la base, c'était vraiment le dialogue entre le frère et la sœur qui était le plus important. Et oui, c'est effectivement...
Est-ce que la littérature, c'est un bon moyen d'avaler un passé qui ne passe pas ?
Je ne sais pas. C'est effectivement un moyen de dire des choses, hein, je pense, comme dit Sarraute, de dire des choses qu'on n'aurait pas pu dire autrement. Après, est-ce que c'est thérapeutique ? Ça, je ne sais pas. Sans doute, un petit peu. C'est toujours bien de pouvoir s'exprimer, mais bon. Ce n'est pas le seul chemin, en tout cas.
Non, mais ça en fait partie.
Oui.
Vos influences sont plutôt du côté de la littérature contemporaine ?
Oui, tout à fait. Enfin, plutôt 20e siècle, effectivement, même si j'ai lu pas mal du 19e siècle. J'ai fait des études de philo, donc je suis aussi un peu influencée par la philo. Et bon, comme j'ai fait les beaux-arts aussi par des artistes, donc j'ai d'ailleurs pas mal d'auteurs contemporains qui sont justement entre les arts plastiques, la philo, la littérature, comme Valérie Mérejeune, comme Thomas Claire, comme Feu Édouard Levé, hein, beaucoup d'auteurs comme ça qui sont un petit peu... à la lisière de plusieurs genres littéraires, enfin littéraires ou hors littéraires.
Finalement, des auteurs que vous reconnaissez comme frères et sœurs, en quelque
voilà.
sorte.
Oui.
Si on peut rester dans la métaphore. Oui. Alors, Que nos vies aient l'air d'un film parfait, c'est quand même un drôle de titre. Ça correspond à quoi ?
Alors, c'est l'année où est sortie une chanson popularisée par Lio, donc en 1981. C'est les paroles de la chanson qui s'appelait à l'époque « Amoureux solitaire », qui avait été écrite par Elie Medeiros et Jacques No, chantée par le groupe qui forme à l'époque, qui s'appelait Sticky Toys, et qui a été reprise par Lio en 81. Donc c'est une chanson qui faisait un carton à l'époque. Et donc l'année où commence le livre, c'est 81, c'est l'annonce faite aux enfants du divorce par leurs parents un week-end à Ardelot. Enfin,
à la plage, en tout cas.
À la plage. La narratrice se souvient plus exactement si c'est Ardelot, mais c'est à la plage, exactement. Et donc, c'est l'année de la sortie de cette chanson, Que nos vies aient l'air d'un film parfait.
Mais c'est pas que l'année de l'élection de Mitterrand, finalement.
Ah oui, non, tout à fait. C'est aussi l'année de la FM, de plein de choses.
Et la musique est très présente dans votre roman.
Oui, parce que chaque personnage, j'ai pensé plus derrière le roman en termes de voix que de personnages, c'est des monologues qui se croisent, et chaque voix, est effectivement, j'ai voulu la caractériser par comme une petite musique, chaque voix a sa propre bande son, et chacun se définit plus, pas du tout par un physique, à aucun moment il est question du physique des personnages, mais plus par ses goûts musicaux ou ses références politiques. J'ai essayé d'ancrer vraiment dans les années 80, enfin début des années 80. Effectivement, la mère c'est plus femme libérée, Cookie Dingler, alors qu'elle n'est absolument pas libérée. Le père c'est Lili Bremax ou d'autres chansons dont je ne me souviens plus. Et les enfants c'est le top 50, le petit garçon c'est en primaire, donc c'est les chansons qu'il apprend à l'école, comme le papa pingouin, qui est d'ailleurs actuellement en vogue à nouveau.
Oui, finalement l'identité des personnages elle passe aussi par la musique. À propos d'identité, il n'y a pas de prénom.
Non,
il n'y a pas de
prénom, et d'ailleurs on ne sait pas au début qui est
à part
qui.
Tom.
À part Tom qui est à la fin, dès le début, est nommé et qui signe cette lettre à la fin.
Mais pas
sinon,
les autres.
Ouais. Pas les autres, non, c'est le père, la mère, la sœur.
Et est-ce que c'est une manière en fait d'élargir l'identité à l'archétype
Oui, parce que bon, c'est vraiment C'est vraiment la voix des enfants dans ces premiers grands divorces, cette première grande vague de divorces début des années 80, puisque maintenant c'est quand même pas mal banalisé. Mais j'ai effectivement écrit ce roman parce que justement ça se banalisait. Et dans le discours que j'ai de mes amis, donc aujourd'hui j'ai la quarantaine, mais qui divorcent un petit peu à l'âge où ça commence, ou des fois même ça se termine. Et effectivement, il y a pas mal d'amis qui font par exemple des fêtes du divorce ou voilà, et qui font ça de façon très ludique. Enfin, c'est plus du tout considéré comme quelque chose de tragique de divorcer, heureusement.
Certes, mais ça reste tragique
pour
les enfants.
Pour les enfants, voilà. Donc voilà. Je voulais rappeler aussi un petit peu cette réalité des enfants, puisqu'on est les premiers à pouvoir témoigner, notre génération, pour avoir vécu. Puis effectivement, à l'époque, c'était quand même le début, enfin 75, la première loi sur le consentement mutuel. Donc 81, on est vraiment au début d'une vague en France, effectivement, outre d'une vague rose, aussi d'une vague de divorce qui est quand même assez importante. Et en province, c'était un petit peu plus... Enfin là, ça se passe dans le Nord, donc effectivement, c'était pas aussi... aussi couru qu'à Paris, je pense. Mais bon, il y avait quand même pas mal d'enfants dans les classes déjà, ça commençait à se développer. Voilà.
C'est vrai. À quoi ressemblerait le film parfait de nos vies?
Des vies qui correspondraient à nos aspirations les plus profondes, des vies qui ne seraient pas des mensonges. Voilà.
Ce serait déjà pas mal, effectivement. Parce qu'à propos de mensonges, dans votre livre, il y a les enfants sont manipulés, les parents trahissent. Enfin bref, c'est pas joli joli finalement ce qui s'y passe.
Non, c'est aussi une époque. Hein, donc c'est chacun à son. Enfin, la mère est quelqu'un d'assez dépressif et puis effectivement qui ne travaille pas et qui a un peu fondé tous ses espoirs sur cette famille, ce couple, et qui se, c'est un peu Desperate Housewife, qui se retrouve avec ses enfants dont elle est séparée parce qu'elle est en hôpital psychiatrique. Et donc il va mettre en place pas mal de choses assez effectivement du genre de la manipulation pour récupérer la garde des enfants, etc. On a une époque aussi où le droit des pères, on est juste assez début, donc les juges sont encore forts en faveur des femmes et enfin, on trouve encore fort naturel que la maternité revienne à la mère, alors qu'on voit dans ce roman que la maternité n'est pas une question de sexe, mais que c'est une question plutôt de responsabilité et que là, le père est quelqu'un dans une figure plus maternelle, en tout cas, que la mère, donc c'est pas forcément quelque chose de stéréotypé comme on peut le penser. Donc voilà, c'est aussi une époque avec ses clichés.
En tout cas, la famille prend un sacré coup et en fermant ce livre, moi j'avais envie de dire avec André Gide, famille je vous hais, parce que ça donne vraiment pas envie de croiser cette famille un dimanche.
Non, ni les autres jours d'ailleurs. Non, je suis pas persuadée que ce soit... Non, c'est une famille comme... famille je vous hais, oui, cette famille-là, parce que c'est un contexte particulier, mais...
Est-ce que ça veut dire que la famille, finalement, peut être un endroit où on se construit, plutôt qu'on se déconstruit, comme dans votre livre ?
La famille, quand elle est effectivement un carcan comme ça, comme c'est quelque chose qui n'est pas forcément choisi, et puis qu'on cesse d'en... Enfin, je pense que c'est des choses qui ont quand même des durées de... des durées de vie limitées, les couples, les familles, on réalise aujourd'hui. Et là, c'est une famille qui a du mal, en fait, qui a séparé, qui a du mal à admettre que c'est terminé, finalement, qui se déchire parce que voilà.
Puis c'est la guerre, hein. Vraiment la guerre.
C'est aussi c'est toute une époque où les divorces étaient encore traités de façon assez trash, on va dire.
Vous pensez qu'avoir 12 ans toute sa vie, c'est possible ?
Oui.
Vous militez pour ça. Et c'est pour ça que vous écrivez d'ailleurs.
Oui, voilà, avec ses aspects positifs et négatifs. Oui, avoir 3 ans, enfin, je pense qu'un auteur, c'est quelqu'un qui. J'ai écrit aussi des albums pour les 3 ans, ou là, des choses. Enfin, je pense qu'on sait aussi se mettre dans l'âge d'une certaine voie qu'on choisit à un moment donné, et puis c'est savoir circuler entre les générations et entre les âges.
Oui, parce que du coup, quand on grandit, on arrête de se poser des questions, et si on arrête de se poser des questions, on ne peut plus écrire.
Oui, là, c'est peut-être ce que je dis dans le roman, c'est ça.
Eh bien, Carole Fiv, merci. Je recommande la lecture de Que nos vies aient l'air d'un film parfait aux éditions Le Passage. Tout à fait, Carole.
Pardon, Françoise, si je peux dire un petit mot aussi. Il y a un recueil de nouvelles qui est sorti cette semaine chez Thierry Magnier, en jeunesse, pour ados, en fait, qui s'appelle Honte de tout. Voilà.
Bon, eh ben alors,
le thème de la honte chez les ados.
Ce sera l'occasion d'en parler un de ces jours dans Traverse.